Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Alicia, c'est bienvenue dans votre émission Page à page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Arnaud Rickner. Bonjour Arnaud.
Bonjour Claire.
Qui va nous parler donc de son récent roman, hein, qui est sorti il y a quelques mois, au mois de septembre, hein, aux éditions Durouergue Collection La Brune, et qui s'intitule Le Wagon. On en parle dans quelques instants avec lui, mais comme à l'accoutumée, quelques petites infos. Pour vous dire que ce soir au Théâtre de Poche à 21h, au 10 rue El Alamein à Toulouse, quartier Bonnefoy, Emmanuel Urien viendra vous lire ses nouvelles et celles de Manukos lors d'un spectacle intitulé « Monstres, purgatoires et autres divertissements ». L'accompagnement musical sera alternativement fourni par l'un et l'autre, ainsi que la guitare, la sensa et la clarinette. Alors, réserver, c'est mieux hein, pour ce soir. Il est encore temps pour ce beau spectacle avec ce duo de choc, Emmanuel Urien et Manukos, au 05 61 48 25 52. Ensuite, ce samedi 27 novembre à la médiathèque José Cabanis à 10h au rez-de-jardin dans la salle d'activité jeunesse, eh bien, l'équipe de la médiathèque vous propose un atelier plastique. Ça a lieu pendant l'exposition des livres animés hein, en forme, pop-up et compagnie. Et donc un atelier pour découvrir et comprendre les secrets de fabrication des livres animés. Alors c'est pour un public à partir de 7 ans. L'atelier est gratuit, mais il est préférable de réserver votre place et celle de votre enfant au 05 62 27 40 31. C'est samedi matin à 10h à la médiathèque. Et puis dimanche, eh bien, l'atelier d'écriture proposé par Hélène Dufaux aura lieu de 10h à 17h dans le quartier des Minimes à Toulouse. C'est l'écriture de soi, c'est un atelier en groupe. Et pour tout renseignement, y compris l'adresse, etc., n'hésitez pas à appeler Hélène. De toute façon, c'est même conseillé parce que je ne vous donne pas l'adresse. Donc c'est le 06 70 22 02 99 06 70 22 02 99 et c'est pour ce dimanche 28 novembre. Et puis j'atteins la dernière petite info pour vous dire que jeudi prochain 2 décembre, alors je vous l'annonce parce que ça a lieu le matin, de 10h à 11h30 au troisième étage de la médiathèque José Cabanis au pôle L'œil et la lettre, une présentation de livres tactiles publiés à l'attention des personnes déficientes visuelles. C'est une invitation à la lecture d'une page d'un de ces livres par le toucher avec le repérage des différentes matières employées suivi du dessin. Donc c'est la découverte d'une autre méthode de lecture que je vous invite à découvrir, donc jeudi prochain de 10h à 11h30. Donc c'est gratuit là encore, mais il faut réserver pour une question de place au 05 62 27 45 86. C'est le numéro du pôle L'œil et la lettre.
Page à page, Claire Ambille.
Alors, je me tourne vers mon invité aujourd'hui. Donc, je suis très heureuse de vous revoir à nouveau, Arnaud.
Merci.
Vous étiez venu l'année dernière pour nous présenter « Enfant perdu ». Voilà, un roman que j'avais beaucoup aimé et édité au Rouergue aussi, hein, comme vos 6 romans. D'ailleurs, c'est le 6e, là, celui qu'on présente aujourd'hui, « Le Wagon ». Ils sont tous édités au même endroit, même collection. Alors, pour au cas où les auditeurs ne vous auraient pas entendu l'année dernière pour l'émission, non, ce n'est rien, c'est juste que Alexandre, notre technicien, qui vient nous faire un petit coucou. Alors oui, Arnaud, donc pour ceux qui ne nous auraient pas écoutés l'année dernière, on va rappeler un petit peu qui vous êtes. Donc vous êtes né à Paris, mais Toulousain d'adoption depuis de nombreuses années.
Voilà.
Vous avez fait des études de lettres à Paris. Et puis, vous avez une passion, c'est le théâtre. Hein, et puis, voilà, vous avez tout un parcours théâtral. Et puis même, vous continuez à faire... Vous êtes dans le théâtre au niveau de votre profession, au niveau de votre passion, de vos loisirs, etc. Alors, vous avez écrit, auteur de mise en scène, hein, bien sûr. Et puis également metteur en scène, hein, pour des textes comme ceux de Cocteau, de Nathalie Sarraute ou même de Dominique Cubin. Voilà.
Cocktest l'année dernière au Théâtre du Pavé.
Au Théâtre du Pavé, voilà. Il y a eu aussi des mises en scène au TNT, hein, en 1999 et 2001.
Oui.
Aussi. Voilà, oui, donc voilà. Le théâtre est votre passion et puis au cœur de votre vie.
Oui, et l'écriture romanesque est d'une certaine façon un prolongement aussi, dans la façon de se mettre à la place des autres. Donc un petit peu comme le travail du comédien finalement.
Donc le roman pour vous, ça serait un peu comme le...
Oui, parfois,
comme du théâtre.
Oui, c'est-à-dire parfois je me dis que c'est parce que je n'ai pas réussi à être comédien que je suis devenu romancier. dans la mesure où c'était.
Je ne sais pas, mais on y gagne. En tant que lectrice, je suis très contente de vous avoir comme auteur, hein, comme romancier. Mais vous pensez que c'est le prolongement de...
C'est a posteriori, en réfléchissant un petit peu à ce qu'on fait, dans l'écriture romanesque, il y a aussi cette expérience de l'altérité, d'essayer de savoir ce qu'est l'autre. Voilà,
l'inconnu.
De prendre sa place, qui est toujours compliqué justement, de prendre la place de l'autre. Mais en même temps, finalement, c'est ce que fait le comédien aussi.
Oui, tout à fait, ouais. Et vous pensez que par le roman, par l'écriture, on peut accéder aussi?
Oui, je pense, parce que c'est une façon d'essayer de trouver en soi la voix de l'autre. Et je pense qu'on a en nous la voix de beaucoup d'autres, justement. On n'est pas simplement une personne.
D'accord, donc un peu le dédoublement de personnalité, mais dans le bon sens du terme, pas le côté qui fait un peu peur, qui peut faire peur de la folie.
Je pense qu'on est tous un peu et hommes, et femmes, et ici, et ailleurs. Et
oui, c'est vrai. Mais dans une certaine mesure. Après, ce qui n'est pas normal, c'est quand c'est
trop,
l'excès. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on va le voir dans ce livre, quelque part, vous vous mettez à la place d'un autre.
Oui.
Hein, c'est parfaitement, vous illustrez parfaitement ce que vous venez de dire avec ce livre.
C'est une expérience un peu limite, mais oui, c'est le même principe finalement.
C'est le même principe. Alors, bibliographie, on va citer quelques-uns de vos livres. Le premier, c'était Mon roi et moi, hein, donc en 99. Ensuite, Je ne viendrai pas. Il y a Blanche ensuite, puis Nur, et puis Enfant perdu, hein, pour lequel vous étiez venu l'année dernière à Page sur Radio Occitanie. Tous édités, comme je l'ai dit, aux éditions du Rouergue, collection La Brune. Je vous invite, si vous ne les avez pas encore lus, à les lire. Et puis donc, le tout dernier, c'est Le Wagon, qui a été publié là au mois de septembre, qui est sorti au mois de septembre. Donc on va en parler, bien sûr. Donc je voudrais juste, on va peut-être situer un petit peu le... Ah oui, puis j'ai oublié de dire ça me le rappelle. Vous êtes vous admirez toute l'œuvre de Marguerite Duras.
Oui, notamment, oui.
Voilà, et d'ailleurs j'avais trouvé l'année dernière, quand on avait parlé d'Enfants perdus, que vous avez un peu le style, ce style de phrase courte, sobre, les mots sont, il y a peu de mots, mais ils disent l'essentiel, l'ampleur de la totalité, on va dire.
Oui, alors c'est toujours dangereux d'être proche de l'écriture de quelqu'un, surtout comme Duras, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a ce même désir.
Il y a quand même cette... c'est flagrant, on ne peut pas le nier.
Essayer d'éviter qu'il y ait trop de choses, que les mots soient trop luxuriants, et au contraire d'aller vers une certaine
sobriété.
Oui, pour ne pas aussi de faire trop de jolies choses.
Tout à fait. Voilà,
les mots.
Tout à fait. Le fait que ça soit économique, économisé, entre guillemets, finalement, ça donne toute sa profondeur au texte, au sens.
Oui.
Donc, alors, on va situer un petit peu ce roman, Le Wagon. Je vais rapporter un petit peu ce que les éditions ont dit en résumé de ce livre, pour ne pas... Donc, j'ai préféré prendre ce que les éditions du Rouergue avaient dit. Donc, je cite, après, je l'ai remanié un peu, mais enfin, voilà. Donc, en juillet 44, l'un des derniers convois de déportés met 3 jours pour aller de Compiègne à Dachau, en Allemagne. Plus de 2000 hommes sont entassés dans 22 wagons, plus de 500 mourront pendant le voyage. Sur ce fait historique, vécu par un membre de sa famille, de votre famille, Arnaud, vous avez fait le pari donc de la littérature en inventant le monologue d'un jeune homme de 22 ans qui raconte au fil des heures l'enfer vécu pendant ce voyage en train. Donc, bien sûr, c'est un sujet qui laisse un peu sans voix.
Oui, c'est un objet effectivement pas facile à approcher.
Non, c'est sûr, mais moi j'ai beaucoup aimé votre roman. Je trouve que c'est un très beau roman. Vous m'avez dit d'emblée, c'est pas gay. Hein, donc non. J'avais été prévenue d'emblée, avant même de savoir de quoi vous alliez nous parler dans ce livre. Mais moi j'ai trouvé très beau. Et puis voilà, on n'en sort pas indemne. Puis je trouve ça bien aussi qu'on n'en sorte pas indemne, que ça ne nous laisse pas indifférents, que ça nous fasse quelque chose. Cette lecture, je trouve ça normal, indispensable et nécessaire même.
En tout cas, si le lecteur peut ressentir la même nécessité que moi, je l'ai eu à l'écrire. Parce que les éditeurs parlent effectivement de Paris. Pour moi, ce n'était pas vraiment un Paris. Enfin, ça s'est trouvé après l'être de facto. Mais pour moi, il y a d'abord eu une nécessité de faire ce livre-là, pour des raisons familiales, personnelles. Non, je ne vais pas employer de grands mots, mais disons, je pense que c'est aujourd'hui particulièrement important de rappeler ce qui s'est passé.
Tout à fait. Le souvenir, la mémoire, l'histoire.
D'autant plus que les survivants, malheureusement, commencent à disparaître.
Oui, tout à fait.
Donc il faut bien prendre aussi le relais de ces voix qui vont se taire.
Et justement, je trouve que l'idée de ce livre est, entre guillemets, originale. Enfin, c'est une très belle idée et surtout originale parce qu'il y a beaucoup de films, beaucoup de livres, beaucoup de documentaires qui ont été faits sur la Seconde Guerre mondiale, sur la résistance, sur la déportation, sur les camps de concentration, sur les rafles, toutes ces choses qui sont véridiques et qui sont attestées, c'est normal d'en parler, qui sont incontestables, mais il y a peu de choses finalement, je ne sais même pas s'il y en a eu avant le wagon. Il y a peu de choses qui ont été écrites ou qui ont décrit ce qui a pu être le voyage en train de France jusque dans ces camps de la mort, le voyage, ce train de la mort finalement, ce voyage vers la mort de tous ces résistants, de tous ces Français qui sont partis vers l'Allemagne sans savoir trop où ils allaient. Ils savaient qu'ils allaient en Allemagne, mais ils ne savaient pas vers quoi. Et puis donc, c'est les conditions de voyage, etc. Il n'y a pas eu trop de choses qui ont été faites.
Il y a eu beaucoup de témoignages, comme il y a eu beaucoup de témoignages sur les camps. Mais en revanche, effectivement, des écritures non testamentaires, si je puis dire, des écritures entre guillemets fictionnelles, comme celle-ci, puisque moi, évidemment, je n'ai pas vécu ces calvaires.
Non, mais quelqu'un de votre famille a pu le vivre.
Voilà, et puis surtout
tous les autres, et puis enfin, plein d'autres.
Voilà, et on a donc des témoignages, mais je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres ou tellement d'autres expériences de se mettre à la place, ce qui est toujours très compliqué justement de se mettre à la place. C'est même dangereux, je pense. Et en même temps, je pense que si on veut comprendre ce qu'ils ont vécu, c'est aussi une nécessité pour
nous.
Tout
à fait.
Donc c'est un petit peu le trajet aussi que j'essaie de faire avec eux. Sachant que c'est un train qui n'est pas un train de la Shoah, parce que d'une certaine façon, pardon du jeu de mots, mais c'est vrai, un train peut en cacher un autre, et pour moi c'est un peu ça. Parce qu'il y a derrière une histoire dont je ne peux pas parler pour d'autres raisons familiales.
Tout à fait.
Et une sorte d'interdit familial, comme il y en a souvent dans les familles. Et puis en même temps, c'était une façon pour moi de raconter quand même quelque chose de cet ordre-là à partir de ce train des résistants.
Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est vrai que le temps passe tellement vite. Alors vous le dédiez ce roman à G. Rival et ses camarades. Enfin, vous le dédiez, il est en mémoire de G. Rival et de tous ses camarades.
Oui, c'est l'élément un peu déclencheur. Rival étant le nom de Gabriel Richner, enfin le nom de résistant de Gabriel Richner, qui était le frère de mon grand-père.
Le frère de votre grand-père, d'accord. Et en prélude aussi à votre roman, il y a aussi une belle phrase de Paul Verlaine, et tout le reste est littérature. Je trouve que ça illustre parfaitement ce livre, finalement, et tout le reste est littérature.
Oui, c'est toute l'ambiguïté. Parce qu'en même temps, c'est la littérature, c'est le pari de la littérature pour parler de quelque chose
de réel.
Que l'on croit hors d'atteinte.
Alors, c'est un roman écrit à la première personne, puisque c'est ce jeune homme dont on apprendra qu'il est d'origine juive.
Oui.
Et qu'il est résistant aussi, et qu'il se trouve donc dans ce train, et qu'il va avoir 22 ans dans 3 jours, donc on est le 2 juillet 1944, et il est dans ce train, il fait une chaleur, une grosse chaleur, parce qu'on est en plein été, et C'est le début de l'été. Donc, dans ce train qui comporte donc 20 wagons, ils sont entassés par 100 hommes par wagon. Donc, dans 20 wagons, dans des conditions évidemment inhumaines, hein, avec une température qui avoisine les plus de 40 degrés.
Hein, oui, parfois ça montait 50, 60 degrés. Enfin, c'était absolument abominable.
Alors, ce jeune homme, il s'oblige des fois à oublier, à ne pas penser à tout son récent passé, hein, parce que là, il y a quelques heures, il était encore pas dans ce train. Il était bon dans un endroit, mais bon, il n'était pas dans ce train. Donc, il s'oblige à oublier son récent passé, et puis plus de souvenirs, ni de nom, ni de sa famille, ni rien. Ça lui fait trop mal.
Oui, je pense que dans des situations extrêmes comme celle-ci, aussi une nécessité d'un retrait, d'une forme d'abstraction, si je puis dire, même si le roman n'est pas du tout abstrait, mais de se retirer en soi pour essayer de se protéger aussi.
Oui, aussi, pour tenir.
Voilà, tenir.
Pour tenir. Ouais, tenir. Et alors, il raconte, donc ce jeune homme, il raconte l'eau, par exemple, parce qu'ils en manquent cruellement. Évidemment, on ne leur a pas donné d'eau. Hein, donc, ils sont sans dans le wagon. Il fait une chaleur épouvantable. Et donc, quand ils s'arrêtent à des gares, il y a des gens qui leur jettent des seaux d'eau à travers les planches de bois qui sont devant les wagons, hein, qui barricadent les wagons. Et donc, comme ça, ils arrivent à récupérer un petit peu d'eau.
Oui. Hein,
c'est une image. C'est
oui,
fort.
Parce qu'il y a eu des Français qui étaient sur les bords des voies, qui ont compris que ce train-là était encore un train bien pire que les autres, puisqu'il restait effectivement dans
l'histoire. Parce qu'il y avait des planches, parce qu'il y avait.
C'était une époque particulièrement chaude, et les conducteurs du train, les Allemands qui. Les nazis qui convoyaient ce train étaient particulièrement fous, jeunes, ne savaient plus ce qu'ils faisaient, sadisme aussi absolument incroyable, ce qui fait qu'il y a eu un nombre de morts absolument considérable. Et évidemment, ça se voyait, ça se sentait, ça se comprenait. Et certains ont essayé d'aider
voilà, en jetant des seaux d'eau. Alors justement, les morts qui se multiplient dans le wagon et puis qu'ils entassent dans un coin pour essayer de faire un peu de place dans ce wagon. Enfin, ça aussi, ce sont des images. Enfin, quand on lit, c'est... Voilà, ça fait forcément quelque chose, mais je pense que c'est nécessaire. Voilà, enfin, on en revient à la nécessité. Je pense que c'est nécessaire d'écrire un livre comme ça, Arnaud, de toute façon, et de lire ces choses-là. Et donc, il se rappelle, ce jeune homme aussi, il se rappelle, par exemple, Edmond Dantès, hein, dans le Comte de Monte Cristo, qui est en train de creuser dans sa cellule, dans son cachot, et puis lui qui essaye de creuser avec les autres le plancher du wagon pour essayer d'avoir un peu plus d'air, pour essayer éventuellement de s'échapper, pour...
Oui, là c'est un petit peu justement céder d'images, d'imaginaire pour s'échapper, même si évidemment c'est totalement dérisoire, que l'évocation est bien bien loin de ce qu'ils sont en train de vivre.
Tout à fait.
De façon de se raccrocher à quelque chose.
Et alors justement, il y a un passage qui est difficile, une scène très difficile, terrible, monstrueuse, hein, et tellement réelle. Enfin, on sait que ça...
Oui, c'est totalement vrai, c'est pour ça que c'est à la fois de la fiction,
réelle.
Parce qu'il y a ce point de vue qui est adopté, et en même temps, tous les éléments racontés sont authentiques.
Basé sur des faits réels, authentiques, donc cette folie meurtrière qui s'empare avec la chaleur, avec la promiscuité, avec la peur, avec toutes ces choses, donc tout ça qui s'empare de ces hommes, et donc il y a une folie meurtrière entre eux. Donc, la scène est vraiment difficile. Ils ne sont plus humains, ce sont des bêtes.
Malheureusement,
ils sont devenus fous.
Exactement, il y a une sorte de réaction chimique qui s'est produite dans certains wagons, plus que d'autres.
Donc, dans le sien, notamment, hein, voilà. celui du jeune homme, enfin là où est le jeune homme.
Ouais. Il y a eu un des wagons du train où, à la sortie, sur les 100, il n'y avait plus qu'un de vivant.
Oui.
On n'arrive même pas, évidemment, à imaginer.
Non.
Et en même temps, comme je le dis dans la préface, il faut absolument imaginer. Il nous faut, c'est un impératif presque éthique d'essayer d'approcher ce qu'ils ont vécu. Sinon, on ne pourra jamais tenter de combattre ce qui est toujours une menace. Donc, on doit créer des images à partir
pour
de ce qui est
sans
images.
Pour ne pas oublier, pour se rappeler, pour éviter que ça recommence.
Aussi, oui, tout à fait.
Et donc, juste après ce carnage, donc dans son wagon, hein, le jeune homme, il reste 63 survivants. Hein, voilà, donc voilà, dans certains, il en reste un. Enfin, dans un, il en reste un seul.
Et dans certains, tous ont survécu pour des raisons.
Oui,
là aussi,
c'est curieux. Oui, ça
fait
pas,
partie presque de l'injustice, de la chance et de la malchance.
Et il dit justement après ce carnage, je cite, « Les larmes coulent sur mon visage. Je ne savais pas que je pouvais encore pleurer. » toute la douleur. Et puis la récolte des gouttes hein, lors de l'orage avec une boîte de conserve, des chiffons hein, pour s'en imprégner, pour après essayer de se désaltérer, se rafraîchir le visage. Hein. Et il dit notamment, dans l'obscurité puante, 2, 10, 15 enfants assoiffés, tête consciencieusement. Et oui, cette image des chiffons pressés contre la bouche pour avoir un petit peu de fraîcheur, un peu d'eau. Hein, parce qu'ils sont en déshydratation intense, hein, forcément. Et puis donc arrive aussi la première nuit dans le wagon, avec au réveil eh bien, encore moins de personnes vivantes hein, dans ce wagon. Hein, première nuit assez désastreuse également. Et puis des arrêts donc, dans les gares hein, à chaque fois. Et puis les personnes des wagons disant bah, « Tiens, c'est là où j'habite et tout. » Et en fait, lui dit une superbe phrase... qu'en fait ils ne reviendront pas chez eux en fait
oui, c'est-à-dire ce qui est incroyable c'est que la vie continue autour la vie continue autour et eux ils traversent en quelque sorte cette vie qui continue et il y a ce contraste entre l'intérieur du wagon et l'extérieur qui continue d'exister presque comme autrefois. Comme si rien ne s'était passé, c'est ça aussi qui est peut-être le plus dur à supporter.
Et quand il parle d'ailleurs de ce wagon, il dit aussi quelque chose de très très fort, ce grand lit commun de douleurs partagées, quand il parle du wagon. Et quand il parle du train, ce cimetière mobile, ce long corbillard de 22 wagons. C'est fort comme image.
Parce que c'était vraiment en fait ce qui s'est passé. Ce train-là était, bien sûr, tous les trains ont été abominables, mais c'est un des trains qui a été les pires. Les Allemands, en plus, alors on dit les Allemands, évidemment, ça n'a rien à voir avec les Allemands d'aujourd'hui.
Hein, oui.
Ces Allemands-là voulaient absolument que tout le monde arrive, y compris les morts. Donc on a gardé ces cadavres jusqu'à Dachau,
dans une odeur épouvantable, évidemment, on le comprend, en plein été, enfin bon... Justement, quand il parle des Allemands, le jeune homme dit « C'est notre souffrance qui nous empêche de leur ressembler. » Et puis il dit aussi « Nous sommes toujours plus forts qu'eux, car nous sommes plus humains. » C'est fort, ça aussi. Hein.
Oui, parce qu'il y a tout le temps cette alternance à la fois de déshumanisation, qui est une sorte de triomphe des nazis, arriver à les amener dans un état régressif abominable, et en même temps, je suis toujours très admiratif de la façon dont ces hommes... pour la plupart, ont réussi malgré tout à la fois à survivre, mais aussi à dépasser cet état animal dans lequel les nazis avaient tenté de les mettre. Ils sont passés par cet état et en même temps, ils en sont ressortis.
Oui, effectivement, c'est fort. Hein.
Enfin, c'est ça leur triomphe. C'est
ouais,
aussi ça que je voulais, d'une certaine
façon,
dire.
D'être plus fort que ce qu'on leur a fait subir.
Oui.
Et j'ai retrouvé la phrase, donc à chaque gare où le train s'arrête, donc le jeune homme dit « Encore un qui repasse chez lui pour ne sans doute plus y revenir ». Ben oui, voilà, parce qu'eux ne savent pas où ils vont, mais bon, nous, quand on lit le livre, forcément,
ils se doutent de toute
façon. On le sait, puis bon, ils s'en doutent, effectivement. Et puis donc, il y a, donc pour tenir aussi, il se met à se rappeler les départements et les chefs-lieux, et leurs chefs-lieux, hein, un petit travail mental pour se concentrer sur quelque chose, pour tenir dans ces conditions épouvantables de voyage. Et puis à un moment aussi, il veut calculer à quelle vitesse roule le train. Et donc, il se met à calculer avec un camarade instituteur qui est dans le wagon aussi. Donc lui compte les poteaux pendant que l'instituteur compte les secondes pour arriver donc à un résultat sûrement approximatif, mais de 41,3 km/h
oui.
Pour ce train.
Mais c'est toujours des façons de tenir,
voilà, en essayant de faire... Donc il dit d'ailleurs, je compte des poteaux, je compte du temps, je compte de la vie, ce qui nous reste de vie. Ça aussi, c'est fort comme phrase, parce que quelque part, comme vous le disiez, Arnaud, il se doute qu'il ne reviendra pas. Hein. Et à Strasbourg, donc pas d'arrêt du train, hein, on passe directement, le train ne s'arrête pas à Strasbourg, et on passe directement en Allemagne, hein, il passe la frontière. Et puis,
Strasbourg étant déjà annexé,
oui,
bien sûr, par les
à
Allemands,
l'époque,
mais,
voilà.
Mais malgré tout, ce souvenir,
ben,
c'était autrefois la France.
Et ils se mettent à chanter la Marseillaise tous ensemble, et nous chantons comme des fous, comme des désespérés, nous chantons pour rien, comme meuglent les bêtes, et encore... Ce chant, je continue, ce chant est devenu le seul abri où nous retrouver tous ensemble. nous chantons comme un seul homme. Voilà, c'est le passage de Strasbourg, c'est voilà, la Marseillaise avec, ils ont le sentiment qu'ils sont passés de l'autre côté et que voilà, la Marseillaise reste quelque chose pour les, dans lequel ils peuvent encore s'unir, où ils sont encore tous ensemble, qu'il y a une unité.
Oui, c'est une façon de se retrouver à la fois dans le chant, il y a quelque chose d'un peu régressif, mais justement très positif, comme si les corps pouvaient se retrouver dans ce chant.
Donc c'est très fort, la fin de votre livre est très fort. Arnaud, je lirai juste la dernière phrase pour situer un peu. Aujourd'hui, j'ai 22 ans et je ne suis pas tout à fait mort. Voilà, ça c'est la dernière phrase du roman. Donc j'invite vraiment les auditeurs à lire, qu'il faut lire, parce que c'est un très beau roman, beau dans le sens, comme l'a dit Arnaud, nécessaire, un roman dont on ne sort pas indemne, qui ne laisse pas indifférent, et qui est surtout très sobre au niveau du style et des mots, et qui n'en fait que ressortir la profondeur, le côté sans appel, le côté puissant de cette histoire, malheureusement, qui s'est réellement passée, hein, qui a réellement eu lieu. Donc c'est cette lecture est nécessaire et en tout cas merci Arnaud de l'avoir écrit ce livre.
Merci de m'avoir reçu.
On se voit au Salon de Montgiscard le 16 janvier prochain.
Oui.
Vous avez d'autres projets d'écriture ?
J'ai une pièce qui sort dans 3 semaines au Solitaire Intempestif, un des éditeurs de théâtre français, l'éditeur de Lagarce entre autres.
Donc vous nous tiendrez au courant, puis je l'annoncerai à page.
Merci.
Et on va se quitter avec un chant, enfin une chanson, enfin du yiddish, du jazz, qui rappelle un peu, enfin qui peut illustrer un petit peu ce roman, enfin ce livre, Le Wagon d'Arnaud Rickner aux éditions du Rouergue. On va se quitter donc avec cette musique, ni triste ni gaie, mais qui est porteuse de un peu tout ce qui a été dit aujourd'hui dans cette émission. Merci Arnaud.
Merci à vous.
Et puis à jeudi prochain, restez fidèles à Radio Occitanie, à Dissiatz. We'll be right back.